J'ai une question bien importante à vous poser. Est-ce que la résurrection de Jésus-Christ est une doctrine essentielle de la foi chrétienne? Les Saintes Écritures vont nous démontrer bien clairement ce qu'est la réponse de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Le Seigneur va répondre à plusieurs questions au cours de cette émission. Je vous encourage à demeurer à l'écoute pendant ce court temps qu'on va passer dans la présence de Dieu pour qu'on reçoive la nourriture spirituelle qu'il va donner à notre âme. Voici les questions. Est-ce que Jésus-Christ a lutté pour demeurer en vie sur la croix? Est-ce que c'est sa vie ou sa mort qui nous a procuré le salut? Qu'est-ce que Dieu nous demande pour démontrer notre foi? Est-ce que Jésus contrôlait les événements qui entouraient sa mort? Lors de la crucifixion, qui a suivi Jésus jusqu'à la fin? Est-ce que la doctrine de la résurrection est fondamentale à la foi chrétienne? Qui a reçu la commission d'annoncer la résurrection aux disciples de Jésus? Est-ce qu'il y a eu des signes pour authentifier le message des apôtres? Et maintenant, voici une question qui s'adresse à tous les croyants, à tous ceux qui ont déjà reçu le don gratuit de la vie éternelle. Que faites-vous présentement afin de propager l'Évangile et la parole de Dieu? Eh bien, Dieu n'est jamais à court de ressources. Il a la réponse à toutes nos questions. Il va nous enseigner de nouveau aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly qui a pris la peine d'ouvrir sa Bible, la parole de Dieu, pour nous donner les réponses à nos questions. Ce n'est pas un homme qui va nous enseigner. C'est le Seigneur lui-même par la bouche d'un homme. C'est comme ça qu'il a choisi de le faire. Alors demandons à Dieu qu'il parle à nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, on est convaincus que c'est toi qui va parler à nos cœurs, par la bouche de ton serviteur. Alors dispose nos cœurs, fais-nous comprendre ce beau message que tu as pour nous aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, je n'ai pas couvert tout le 15e chapitre de l'Évangile selon Marc. Ce n'est pas parce qu'il est trop long. Le chapitre précédent avait 72 versets. Et celui-ci, seulement 47. Nous ne l'avons pas terminé car ce chapitre traite de la crucifixion de Jésus. Et j'aimerais que nous puissions y passer encore plus de temps. Chers amis, débutons à l'instant même notre lecture de Marc chapitre 15, versets 37 et 38. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira, le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. Les sacrificateurs faisaient le service du temple à cette heure-là, dont plusieurs d'entre eux furent témoins de cet incident. Ceci a dû les frapper et les toucher. Quoi qu'il en soit, nous apprenons plus tard que de nombreux sacrificateurs se convertirent. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Actes, chapitre 6, verset 7. Ce verset confirme que de nombreux sacrificateurs crurent au Seigneur Jésus-Christ, et il est probable que certains d'entre eux faisaient le service du temple au moment de la crucifixion. Le fait que le voile se soit déchiré au moment où Christ a rendu l'âme n'est pas accidentel. Le fait qu'on parle des deux incidents ensemble indique qu'il y a un lien entre les deux. Jésus a rendu l'âme. Il ne pouvait mourir avant de rendre son esprit. Il n'est pas mort parce que ses organes ont cessé de fonctionner, mais il est mort d'une manière différente de nous. Une personne râle en mourant. Elle essaie de prendre un dernier respire. Jésus n'a pas fait cela. Il a remis son âme entre les mains de Dieu. C'est ce qui fait que sa mort fut physiquement différente. à l'instant de la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré. Ce voile symbolisait l'humanité de Jésus-Christ. Le livre de Lévitique nous éclaire davantage sur ce sujet, car ce livre traite du service dans le tabernacle. Ce voile symbolisait l'humanité de Jésus-Christ, et il est porteur d'un message. L'humanité de Christ, ou la vie de Christ, nous sépare de Dieu. Sa vie parfaite, sans péché, expose nos vies pécheresses. Au moment où Christ est mort, le voile s'est déchiré. C'est sa mort qui nous ouvre la voie à Dieu, pas sa vie. Verset 39. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Ici, nous voyons la confession de foi du centurion, et il ne pouvait pas aller plus loin avec celle-ci. Il ne pouvait rien ajouter qui aurait révélé sa foi davantage. Il reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il se rend compte de qui est Christ et de ce qu'il fait. Cet homme ne connaissait pas la théologie. Il n'a pas pu lire un bouquin de théologie systématique, mais il en connaissait suffisamment pour prendre sa place au pied de la croix de Christ. Savez-vous, c'est tout ce que Dieu demande de n'importe quel pécheur. Il nous demande de venir à Christ avec foi, et c'est ce que le centurion fait. Rappelez-vous qu'il est un soldat romain et qu'il a la tâche cruelle d'exécuter les prisonniers condamnés. Il fut très touché par celle-ci, par la mort de Jésus-Christ. Maintenant, la Bible nous parle des femmes qui étaient présentes. Versets 40 et 41. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Notez que les femmes furent les dernières à quitter le lieu de la crucifixion et les premières à se rendre au tombeau. On nous dit qu'elles regardaient de loin. Elles demeurèrent fidèles jusqu'à la fin. Les disciples et les apôtres étaient dispersés à ce moment-là. La Bible ne nous dit pas le nom de plusieurs des femmes, mais elle dit « et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem ». Versets 42 à 45. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier. Il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Ce que nous observons ici est très intéressant. Joseph d'Arimathée est un disciple de Jésus peu connu. Il fut chargé de l'enterrement de Jésus et il eut le courage de s'afficher à ce moment-là. Il était membre du Sanhédrin. Rapporté par l'évangéliste Luc, chapitre 23, versets 51 et 52. Et il n'avait pas donné son approbation aux actions de ses collègues. Il avait refusé de participer à leurs décisions et leurs actes. Cet homme attendait la venue du royaume de Dieu. Alors que les apôtres sont dispersés, cet homme s'avance et s'affiche pour Jésus-Christ. Il réclame le corps de Jésus. On nous dit que Pilate fut étonné du fait que Christ soit mort si vite. Habituellement, une personne crucifiée demeurait longtemps suspendue à la croix avant de mourir. Il arrivait même que le supplice dure quelques jours. Le crucifié mourait à petit feu. C'est pourquoi Pilate fut étonné et qu'il a demandé au centurion de confirmer la mort de Christ. C'est Christ qui a remis son âme entre les mains de son Père, et nous devons comprendre cela. Lors de ses dernières heures, on cassait les jambes du crucifié pour accélérer son décès. Cependant, ce ne fut pas nécessaire de faire cela dans le cas de Jésus. Il est mort avant, et cela est conforme à la prophétie qui disait qu'aucun de ses os ne sera brisé. Mes amis, seul Christ peut nous donner de la valeur. Vous et moi ne valons pas grand-chose, mais Jésus a payé un grand prix pour notre rédemption. Nous gémissons dans nos corps, mais eux aussi sont rachetés, et un jour ils seront glorifiés. Joseph d'Arimathée était un homme riche, et c'est avec tendresse qu'il place le corps de Jésus dans le tombeau. Verset 46. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Ce tombeau fut scellé par les Romains, car les principaux sacrificateurs avaient demandé une garde à Pilate. Matthieu, chapitre 27, verset 26. Revenons à l'Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 47. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Seules les femmes étaient là pour le pleurer. Elles ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Maintenant, nous passons à la résurrection et à l'ascension de Jésus. La résurrection de Christ est une doctrine essentielle à la foi chrétienne. C'est le cœur même de l'Évangile. Tous les sermons rapportés dans le livre des Actes parlent de la résurrection. Tous les prédicateurs en ont parlé. La jeune Église parlait principalement de cela. Aujourd'hui, on enseigne peu au sujet de la résurrection dans les églises. Dans bien des églises, on n'en parle qu'à Pâques. Pourtant, c'est le message qui a ranimé une génération pécheresse et léthargique de l'Empire romain. Ce message a bouleversé le monde romain alors qu'il fut diffusé à travers l'Empire. Nous aurions davantage d'espoir aujourd'hui si ce message était prêché avec plus d'assurance. Avant de poursuivre dans ce 16e chapitre de l'Évangile selon Marc, j'aimerais mentionner que ce chapitre fut et est encore très critiqué. En effet, certains érudits pensent que les versets 9 à 20 ne se trouvaient pas dans le texte grec original, car ils sont absents de certains anciens manuscrits considérés fiables. Cela est vrai autant chez les conservateurs que chez les modernistes. Je n'ai pas l'intention d'aller plus loin avec ce sujet, car je préfère m'arrêter au message du texte. Je pense cependant que les 12 derniers versets font partie du texte inspiré, et je les traiterai comme toutes les autres sections de la Bible. Je ne pense pas que parce que ce passage est absent de 2 documents anciens soit une raison suffisante de le retirer de la Bible. Après tout, il se trouve dans de nombreux autres documents. De plus, le style du passage est le même que le reste de l'Évangile de Marc. Voici le plan du 16e chapitre. L'arrivée des femmes au tombeau vide, versets 1 à 4. L'annonce de la résurrection par les anges, versets 5 à 8. Les apparitions de Jésus, versets 9 à 18. L'ascension de Jésus, versets 19 et 20. Débutons notre lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ceci se passe très tôt le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Elles n'ont jamais pu oindre son corps. Ce n'est pas Marie de Béthanie qui a gaspillé son parfum, mais ses femmes, car lorsqu'elles sont arrivées à la tombe, Jésus était ressuscité. Versets 2 à 4. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Le sabbat s'était terminé au coucher du soleil le samedi. Elles s'étaient procuré des aromates après la fin du sabbat en prévision de se rendre à la tombe le matin. Les mêmes femmes qui étaient présentes à la croix viennent maintenant au tombeau. Je crois que ces femmes furent les dernières à quitter le calvaire et les premières à venir à la tombe. Puisque Jésus était mort, les disciples préféraient demeurer terrés jusqu'à ce que les choses se calment et que le danger passe. Avait-il l'intention d'aller à la tombe? Rien ne prouve qu'il ait eu l'intention de le faire. Il ne semble pas qu'aucun comptait le faire. Ces femmes désiraient oindre le corps de Christ avec les aromates qu'elles ont achetés. Elles se demandaient comment elle pénétrerait dans la tombe, car une pierre avait été roulée devant l'entrée. Elles ont découvert que la pierre avait déjà été roulée et que la tombe était ouverte. Le corps de Jésus n'y était plus. Un être céleste était là afin d'annoncer la résurrection de Jésus pour la première fois. Le fait que la tombe était vide fut bien établi et certifié. Il y a suffisamment de preuves pour défendre le point devant un tribunal. Versets 5 à 7. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Pour avoir tous les détails de ce qui s'est produit ce matin-là, il faut comparer les récits des quatre évangiles. Certains faits sont racontés dans Matthieu et d'autres dans Jean. L'ange a donné aux deux femmes la commission de mettre les disciples au courant de la nouvelle. Il ne semble pas que les anges s'attendaient à ce qu'un des disciples vienne au tombeau, sinon ils ne leur auraient pas fait parvenir ce message. Il leur fait dire que Jésus les précédera en Galilée tel que promis. Dans Jean, chapitre 21, il nous parle de cette rencontre remarquable. Pouvez-vous imaginer l'étonnement des femmes? Elles ont dû rester bouche bée. De plus, ce n'est pas une manière appropriée de terminer l'évangile. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les érudits qui pensent qu'il devrait se terminer ici. Poursuivons notre lecture, verset 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Nous sommes rendus à la portion des Écritures qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits. Verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Marc n'a jamais caché que son récit n'était pas chronologique, mais il affirme qu'il l'est dans ce passage. Versets 10 à 14. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut, sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Marc n'a pas rapporté tous les détails, mais ceux qu'il donne sont dans le bon ordre chronologique. Verset 15. Puis il leur dit, « Allez, par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » L'évangile de Marc est un évangile d'action, et maintenant Jésus leur demande de passer à l'action. Ils doivent aller par tout le monde. Il nous dit aussi que nous devons être des hommes et des femmes actifs dans le royaume de Dieu. Chers amis, que faites-vous présentement afin de propager l'évangile et la parole de Dieu? C'est notre mission. Vous devriez faire votre part afin que la parole soit annoncée. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus ne dit pas qu'il faut être baptisé pour être sauvé, mais il dit qu'une personne sauvée se fera baptiser. Versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Si vous pensez que ce don de faire des miracles est pour vous, vous devez accepter de faire tous ces miracles. Je pourrais vous préparer un délicieux breuvage à l'arsenic et au cyanure, si vous pensez pouvoir le boire et vivre. Ces signes miraculeux ont cessé de se manifester alors que l'Église était encore jeune. Ces signes ont authentifié l'Évangile à ses débuts. Et aujourd'hui, notre signe est la parole écrite. À la fin du premier siècle, le test de la foi d'une personne était une doctrine exacte. Et c'est toujours notre test aujourd'hui. C'est la parole écrite que nous devons utiliser pour évaluer l'enseignement que l'on reçoit. Versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le signe était pour les apôtres, mes amis. J'aurais aimé passer plus de temps sur ce sujet traité brièvement ici. Mais, même dans un programme de 5 ans, il faut passer vite sur certaines choses. La vie chrétienne d'avant était basée sur la foi, et c'est la même chose aujourd'hui. Imaginez, vous vivez dans ce temps-là, et que l'on vienne vous dire, cher ami, je connais un type du nom de Jésus qui vient de guérir des milliers de malades. Il a ressuscité des morts et a même marché sur les eaux. Cher ami, la question que tu te serais posée à ce moment est celle-ci. Vrai ou faux? J'y crois ou je n'y crois pas? J'ai la foi ou je ne l'ai pas? Sache qu'aujourd'hui, dans les années 2000, la Bible est le témoignage de gens qui viennent te dire « J'ai vu un type qui s'appelle Jésus. Il a guéri des milliers de malades, a ressuscité des morts et a marché même sur les eaux. » Cher ami, la question se pose encore aujourd'hui. Vrai ou faux? Tu y crois ou n'y crois pas? Tu as la foi ou ne l'as pas? Sache que la Bible déclare que le juste sera justifié par la foi seule. Chers amis, pour la prochaine émission, un nouveau livre, lisez les versets 1 et 2 du premier chapitre du livre du Lévitique.
Merci beaucoup, Régent. Je dois avouer, mes amis, que puisque je suis une femme, j'ai beaucoup apprécié entendre que ce sont des femmes qui étaient là pour pleurer quand Jésus est mort sur la croix. Elles ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Et ensuite, le premier jour de la semaine, ce sont des femmes qui se sont rendues au tombeau les premières pour constater que Jésus était ressuscité. Toutefois, je ne pense pas que les femmes soient meilleures que les hommes. Réjean nous a mentionné qu'elles sont sorties du tombeau en courant parce que la peur et le trouble les avaient saisies. Et en plus, elles n'ont rien dit à personne à cause de leur effroi. Là, je dois avouer que je me reconnais. Il m'arrive encore, à ma grande honte, d'être comme paralysée devant des événements qui me dépassent à cause de la peur. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait voir que j'étais comme ça et parce qu'il est à l'œuvre dans ma vie présentement pour me libérer de ces peurs. C'est de l'incrédulité que d'avoir peur comme ça. Mais Dieu est en train de me secourir et de faire grandir ma foi. Oh, merci Seigneur. Une autre chose qu'on a vue aujourd'hui, c'est le fait qu'on doit passer à l'action, qu'on doit aller par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Vous vous rappelez, au début de l'émission, on avait une dernière question qui s'adressait à nous. C'était « Que faites-vous présentement afin de propager l'Évangile et la parole de Dieu? » Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je suis convaincue que c'est pour ça qu'on est encore sur cette terre, parce que tout le reste va bientôt périr. Nos loisirs vont périr. Alors, je sais bien que c'est bon d'en avoir un peu, mais ils ne devraient pas prendre la priorité dans notre vie. Il y a tellement de gens qui meurent sans Dieu dans le monde à chaque jour. Qui va leur dire que tout n'est pas terminé après la mort et qu'on a une décision à prendre avant de passer par la mort, si on veut être sûr de passer l'éternité dans la présence de Dieu? Qui va leur dire que Jésus est mort sur la croix pour eux, qu'il est ressuscité glorieux et qu'il est donc vivant maintenant? Qui va leur dire qu'il a vaincu la mort et qu'il offre le salut par grâce à tous ceux qui croient en lui? Qui va leur dire que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais que celui qui ne croit pas sera condamné? Mon ami, ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé de Jésus avec ton voisin, avec ton collègue, avec un membre de ta famille? Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu cette joie de conduire une personne à Christ pour qu'il la sauve? Il y a des gens autour de nous qui souffrent, qui sont sans Dieu dans le monde. Derrière les portes, il y a des gens qui pensent à se suicider. Tu vas peut-être arriver juste au bon moment pour les empêcher de le faire et leur faire connaître qu'il y a un sauveur merveilleux, Jésus, qui veut les sauver, qui veut leur donner la vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi. On va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.